Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Mathieu, salut.
Salut.
Alors, tu es haute couture.
Exactement.
Exactement. Je t'ai rencontré parce que tu refaisais un habillage de yourte. Et donc, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ton activité. D'abord, ton parcours, parce que tu n'es pas du tout yourtier.
À l'origine, non, je ne suis pas couturier de yourte. Non. Non, par contre, la yourte, ça fait 15 ans que je travaille avec. J'ai, pendant voilà, ces 15 années, tourné des spectacles dans une grande yourte qui s'appelle la yourte Beluga.
Et de la compagnie Beluga.
Voilà, de la compagnie Beluga. J'avais monté ce projet, ça fait une quinzaine d'années. Et puis j'ai créé pas mal de spectacles sous cette yourte, beaucoup tourné. Et la bâche s'étant usée, je me suis mis à la couture comme un grand. Et voilà, pendant pas mal d'années, j'ai fait du spectacle sous yourte, du spectacle en théâtre.
Donc tu étais circassien ?
J'étais régisseur. Je faisais des créations lumière avec des circassiens essentiellement. Ouais. Et la couture, j'en faisais de plus en plus, pour moi, pour des amis. Et puis ça fait quelques années que je me cherchais, on va dire, une forme de reconversion professionnelle. Puis à un moment, je me suis dit tout simplement, monte un atelier de couture.
Cette couture sur cette yourte de Beluga, c'était par obligation,
par nécessité.
Par nécessité, il fallait s'y mettre.
Oui, parce que faire appel à des couturiers spécialisés dans la bâche de yourte, c'est quand même pas si simple. Il n'y en a pas partout, c'est des machines un peu particulières, il y a un savoir-faire. Donc en cas d'urgence avec ma yourte en tournée, j'avais toujours besoin de faire une réparation, quelque chose, et voilà, il fallait que je sache le faire tout seul. Donc je me suis formé avec des couturiers, et puis après j'ai appris petit à petit à force de casser des aiguilles, quoi.
Alors explique-nous, qu'est-ce que ça de spécifique ?
Les bâches de yourte, comme d'ailleurs les bâches de... Parce qu'on ne fait pas que des yourtes, on fait aussi des coutures pour des dômes géodésiques, pour des tipis ou des roulottes, tout ce qui est structure un peu insolite, barnum et tout ça. Donc on bosse sur des matériaux et des bâches assez lourdes, assez épaisses. Voilà, c'est la grosse différence avec de la couture classique de vêtements. On ne peut pas travailler avec des machines familiales comme on a tous à la maison sur nos bâches. Il nous faut des machines professionnelles, des machines avec des gros moteurs, et sur lesquels on peut mettre des grosses aiguilles avec des gros fils, enfin tout est démultiplié en gros.
Donc c'est des grosses machines.
Donc c'est des grosses machines dans un petit atelier pour l'instant.
Ouais, mais du coup en tournée ça devait être encore pire. Enfin,
j'avais toujours une machine au fond du camion, hein. Ah ouais, pour de vrai, hein. Au cas où. Et puis maintenant il n'y en a pas qu'une dans l'atelier parce que je me suis associé avec donc un copain, on n'a pas encore parlé de lui, on va y venir, mais... On a une dizaine de machines dans l'atelier maintenant. Et chaque machine est spécifique.
Et où est-ce qu'on se forme ? A priori, c'est un truc qui est...
On se forme auprès d'autres artisans qui font ce boulot-là. Il n'y a pas d'école, pour ça. C'est pas comme la haute couture, la vraie, ou la couture classique, où à Paris, il y a plein d'écoles de costumerie et tout ça. Là, on se forme directement... auprès des artisans, on va faire des stages, des formations chez eux, on apprend à coudre, on apprend à faire des patronages.
Voilà. Justement, dans le milieu du spectacle, j'imagine tout ce qui est barnum, tout ce qui est chapiteau, tout ça, c'est des choses qui sont régulièrement abîmées.
Bien sûr.
Et il n'y a pas vraiment de structure, d'entreprise et d'école pour...
Pas vraiment, j'ai pas connaissance de ça, c'est pas fou. Pour apprendre à faire des chapiteaux, le mieux c'est en Italie, il y a des super fabricants de chapiteaux, de bâches de chapiteaux, ils font tout à la main. Je pense que c'est une bonne école. Ouais. Après c'est vrai que pour les compagnies qui doivent entretenir leur matériel, c'est toujours un problème. Un gros coup de vent pendant une tournée, une branche d'arbre qui tombe sur une partie du chapiteau, il est déchiré. C'est sûr que ça demande de savoir soi-même se débrouiller, quoi.
Donc, Tu arrives dans le Diwa.
Ouais, ça fait 2013, ça fait 8 ans maintenant.
Terminé la compagnie Beluga.
Oui et non. Quand je suis arrivé en 2013, ça tournait encore jusqu'en 2015. Et puis depuis 2015, j'ai mis la yourte à la retraite et l'atelier de couture. Et aujourd'hui, sous cette même yourte, Beluga, voilà, elle continue à me suivre en fait.
Oui, oui. Oui, donc c'était ta yourte en fait.
Ouais.
Non. Ouais.
Ouais, ouais.
Okay. Ok. Et la compagnie Beluga est passée à autre chose.
C'était ma compagnie aussi.
Ouais, ouais, il n'y en a plus non plus.
Bah voilà, tout est en sommeil.
T'as renvoyé tous les circassiens. T'as...
C'est exactement ça.
Non, mais alors, je me permets de m'arrêter quelques instants là-dessus, parce que souvent les compagnies, elles sont montées justement par des circassiens, des metteurs en scène.
Par des artistes eux-mêmes.
Par des artistes eux-mêmes. J'ai
tu
l'impression
veux dire que
rarement
si je suis régisseur, je ne suis pas artiste.
Tu vas nous le dire. Mais rarement, en tout cas, par. Je mets des guillemets, peut-être un peu méchant, par un technicien.
Par un technicien, ouais. Ouais, un technos même.
Un techos.
Un techos.
Un vieux rodi.
Voilà, un pousseur de fly.
Bon, c'est bon, on a tout dit.
Ben oui, c'est vrai que quand j'ai commencé dans le spectacle, j'avais 20 ans et je poussais des fly et je faisais le rodi. Mais en même temps, ça ne m'a pas empêché d'avoir envie de créer. Et ce que j'ai créé, c'est un espace dans lequel j'ai pu travailler avec des artistes de cirque. C'était ça le projet.
Donc la yourte était un agrès.
C'était un espace autonome, son, lumière. Moi j'amenais mon savoir-faire technique et mon regard artistique. Et je me suis associé avec pas mal de compagnies. Hein. Sous cette yourte, on a créé quand même une dizaine de spectacles avec 3 compagnies différentes. Et puis j'ai accueilli beaucoup de compagnies en tournée avec qui j'ai pas créé, mais avec qui j'ai diffusé leur spectacle. Et cette yourte, au bout de 250 montages et autant de démontages, après avoir fait rentrer 80 000 spectateurs à l'intérieur et des milliers et milliers de kilomètres, j'étais un peu usé de tout ça. Et puis j'ai 2 enfants aussi. Donc passer plus de temps à la maison, ça devenait vraiment important. Là, on a eu une réflexion familiale sur comment trouver justement une nouvelle activité. Et c'était important de rester proche. Voilà, pour ça que la couture dans le Haut-Diwa, ça trouve sa place. Parce qu'en plus, il y a plein de gens en yourte.
Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, cette structure, haute couture, donc c'est en
haute
fait,
couture.
C'est chaud, hein.
Ouais, c'est haute couture.
H-O-T.
C'est H-O-T, ouais.
Tu montes ça quand et comment, sous quel statut, comment ça fonctionne?
Alors, déjà, pour monter haute couture, il a fallu que j'ai un petit coup de main, on va dire, ou un coup de motivation. Et il y a 2 ans, on s'est rencontrés avec Nicolas. Lui, il était en station de ski, il est moniteur de parapente. Et avec sa copine, ils avaient décidé de changer de région. Et quand il est arrivé ici, en fait, on s'est rencontrés tout de suite. Et puis on s'est rendu compte qu'on faisait du parapente tous les deux. On s'est rendu compte qu'on faisait aussi de la couture tous les deux. Qu'on avait les enfants qui étaient dans la même classe. Et puis de discussion et de fil en aiguille, comme on dit, le jeu de mots va bien. On s'est dit, il faut qu'on s'associe. Il faut absolument que... Parce que lui avait déjà son atelier de parapente, en fait. Donc, il n'est pas dans l'habitat léger, la yourte et tout ça.
Son il domaine, répare les toiles de parapente.
C'est ça, c'est vraiment le parapente, c'est la réparation, la révision. Donc il avait l'intention, tu vois, de ramener son atelier dans le Diwa. Et on s'est dit, faut qu'on fasse un truc ensemble. Autant avoir un atelier commun. Et puis il a refait une saison en station, jusque mars 2012, ou 2020, je veux dire, l'année dernière. C'est passé ce qui s'est passé, le petit virus qui nous a tous bien, voilà, sa dernière saison. Et on est allé chercher l'atelier, on est allé chercher toutes ces machines, on les a toutes ramenées dans le Diwa, on les a stockées chez moi, on a monté la yourte Beluga et dans le jardin, et puis on a mis les machines dedans et c'était parti. Donc,
alors lui, il doit avoir des machines très fines par rapport à toi.
Ouais, lui,
c'est
pas
rien à voir la toile là-bas.
En fait, on s'est bien complété dans les machines, ouais, c'est ça. On avait peu de, voire même aucune machine identique. Et c'est ce qui fait qu'on a un beau panel de machines maintenant, qu'on peut coudre. Nico peut coudre des tissus ultra fins et moi des tissus ultra épais. Et bon, Nico, il a appris maintenant bien à coudre les tissus épais aussi. Pas de problème. Moi, les tissus fins, c'est quand même...
Donc, il peut te remplacer, mais toi, tu peux pas réparer un parapente.
Je peux l'aider, je peux l'assister, mais la réparation de parapente, je me lance pas encore dedans. Je fais la révision, ça y est, je suis formé en révision déjà. Voilà, et avec Nico, on a cherché un statut ensemble et un nom de boîte. Donc ce nom, ben, on l'a trouvé. Et le statut, on a mis du temps parce qu'on savait pas trop comment s'associer. Et on a décidé pour une première année de s'inscrire à la SCOP Solstice, qui est à Eure. Voilà. Donc on a intégré la SCOP à l'automne, là, automne 2020.
Et du coup, dis-nous un peu comment ça fonctionne, cette histoire de SCOP, parce que, en fait, du coup, c'est eux qui portent le statut.
C'est exactement ça, en fait.
Vous êtes salarié.
On est entrepreneur et salarié. On est entrepreneur de notre projet, salarié de la SCOP. On utilise le même numéro de SIRET, tous les entrepreneurs. Donc, avec Nicolas, on a le même numéro de SIRET. On fait les mêmes devis, les mêmes factures, avec le même nom. On a monté ce nom qui est juste comme une marque déposée. Et on est dans un contrat les 6 premiers mois où on met un capital de côté. Et quand le capital est arrivé à un certain niveau, on peut commencer à se salarier. Voilà. Et après, il y a des contrats évolués au fur et à mesure des années pour intégrer de plus en plus profondément la SCOP, mieux la connaître. Sachant qu'il y a quand même, je crois, 130 entrepreneurs salariés dans la SCOP. C'est une grosse équipe. Par contre, on a une comptabilité séparée avec Nico. C'est-à-dire que chacun peut facturer, on n'a pas encore passé le seuil de la SARL, voilà. On a encore gardé
et vous chacun une indépendance.
On se dit que si dans les prochaines années ça fonctionne bien et qu'on continue à bien s'entendre et que tout se passe bien, ouais, il y a des chances que ça se transforme. Ça peut être un bon tremplin, la SCOP, ou alors si ça ne se passe pas bien... Au contraire, on ne prend pas énormément de risques non plus.
Voilà. On est à Luc, il y a le site de Clamontard, donc j'imagine que Nico a un peu de boulot avec les parapentes qui sont dans le coin, mais encore, est-ce que c'est une grosse activité? Et toi-même, du côté de la yourte, est-ce que vous aviez étudié un peu le marché avant de venir vous installer dans le Diwa juste pour le plaisir? Ça paraît pas fou?
Au départ, sur le papier, ça paraît pas fou. Parce qu'on n'est pas nombreux dans le Diwa non plus. Et
sur des yourtes, par exemple?
Par exemple, sur la yourte, il y a des habitats en yourte, il y a du monde, mais on n'est pas non plus... on n'est pas dans une région ultra habitée. Donc forcément, monter une entreprise dans le coin, ça aurait peut-être été plus judicieux pour nous de se dire on va s'installer à Cray ou quelque chose comme ça... Mais en fait, déjà, il y a un super bouche à oreille dans le Diwa. Ça fonctionne vraiment bien. Quand quelqu'un est satisfait de quelque chose, le mot, il passe.
Ça veut dire que tu fais du bon boulot, alors?
Nico, il faut du bon boulot. Moi, je n'ai pas encore atteint ça. Non, je rigole. Nico, il ne pensait pas, et on en a reparlé il n'y a pas longtemps, il ne pensait pas avoir autant de voiles, autant de travail, en fait. Parce qu'on a beaucoup de gens du Diwa, mais en fait, on a aussi beaucoup de gens qui viennent de tout le bassin de la vallée du Rhône, au niveau de Valence, Romans, voire même tout le tour du Vercors, en fait. On touche tout le tour du Vercors. De Romans-sur-Isère jusqu'à Aspre.
Parce qu'il est tout seul?
Parce qu'en fait, le prochain atelier de couture et de réparation et de révision, il est loin. Mmh. Ils sont très loin, ouais. Donc il y avait vraiment un manque, en fait, d'avoir un atelier. C'est intéressant pour tous les parapentistes ici qu'il y ait un atelier qui soit monté. Le risque qu'il y avait au départ, c'est est-ce qu'il y aurait assez de monde pour faire tourner cet atelier? Et en fait, ouais, il n'y a pas non plus que les locaux, il y a aussi des Belges qui viennent pas mal en vacances avec leurs voiles et qui volent là depuis des années. Voilà, et des gens d'un peu partout, de l'Ardèche aussi, on a beaucoup beaucoup de voiles qui arrivent d'Ardèche. Et puis Nico, il a cette spécificité, c'est de réparer les voiles qui sont déchirées. Et ça, il y en a très peu qui le font en France. Donc on reçoit des voiles, en fait, de partout de la France pour ça. Par colis, et il les répare, et il les renvoie, et voilà. Donc c'est pas que régional, ni départemental. Nico, en plus, il a cette boîte qui existe depuis longtemps, qui encore utilise le nom Parallèle Contrôle. Donc c'est ce camion jaune qu'on voit se balader dans le Diwa, là, marqué Parallèle Contrôle, c'est lui. On pourrait lui faire coucou sur la route quand vous le voyez, le klaxonner. Et donc, il a aussi ramené avec lui son ancienne clientèle. Pour lui, c'est plutôt assez bien parti et c'est que la première année. Pour moi, c'est différent. J'avais pas de clientèle avant. Donc, je me fais ma clientèle, je me fais aussi mon expérience. Donc, je fais encore des erreurs. Mais ça arrive quand même. Le bouche-à-oreille fonctionne aussi.
Comment t'as fait pour... t'es allé repérer les yourtes? Puis aller,
ouais, j'ai mis des étiquettes à chaque porte de yourte. Non, je laisse faire le bouche-à-oreille. C'est les
gens qui habitent.
Les gens qui habitent en yourte entre eux qui disent ah, ma bâche est vieille, il faudrait que je la refasse. Et puis l'autre qui lui dit ah ben moi je connais quelqu'un qui peut te le faire. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Bon, on a quand même fait un petit site sur internet, pas exceptionnel, mais au moins histoire d'y être. Et puis j'ai
dis-le, c'est quoi?
Bon, c'est atelierhautecouture.fr.
Okay.
Et puis on a fait un truc, ça, je ne sais pas si je dois le dire à la radio, mais j'ai fait une page Instagram.
Ouais, pourquoi pas?
Non, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. Mais bon, là, on l'a fait. Donc vous pouvez nous trouver sur Instagram
à Haute Couture. Tu poses des photos?
On pose des photos. D'ailleurs, la yourte sous laquelle on s'est rencontrés, ça y est, ouais. Elle est sur Internet. Ouais. On n'a pas dit où elle était, ni à qui. Mais on met l'image du travail pour que ça se diffuse, en fait, tout simplement. Parce que l'idée, c'est pour l'un comme pour l'autre, c'est qu'on... Moi, j'ai encore mon statut d'intermittent, je fais encore un peu de création, mais j'aimerais, à terme, d'ici un an ou deux, être complètement indépendant et voilà.
Alors, comment tu procèdes? Tu arrives sur une yourte, faut quoi? Faut déjà tailler un patron, chaque yourte est différente.
Ouais. Ouais, chaque yourte est différente, c'est du sur-mesure à chaque fois. Donc, on reprend toutes les côtes de la yourte. Et puis on propose un petit catalogue de bâches avec des différentes couleurs. On bosse avec différents fournisseurs de bâches. Alors dans les yourtes, il y a plusieurs matériaux, tu vois, qui peuvent être utilisés. Donc le client a le choix entre de l'acrylique, du coton, du polycoton. Enfin, voilà, il nous manque encore des matériaux à base de chanvre. Enfin, on aimerait bien que ça arrive dans quelques années. Mais... Et puis une fois le tissu choisi, la colorie choisie, on calcule le métrage... On fait une maquette, on va dire, soit sur ordinateur, soit à la main. Puis après, on se lance dans la découpe, le traçage, la découpe réelle, la couture. Et après, ben, on croise les doigts que ça tombe bien. En général, ça tombe bien. Puis s'il y a une petite erreur, on retourne à l'atelier, on fait la petite rectif. Ouais.
Combien de temps pour faire une bâche? Alors, sachant qu'une yourte, en fait, il y a une bâche de toit déjà, et puis une bâche de tour.
Bâche de mur, ouais.
Deux tours.
Plus des fois un chapeau aussi au sommet pour couvrir le cercle. Bon, en général, une petite yourte, on met 2 jours. Et une grosse, 3, voire 4 si elle est très grosse. Quand je dis grosse yourte, ça veut dire jusqu'à 8 mètres de diamètre. 8, 8, 50, ça commence à être des grosses yourtes déjà. Les petites, c'est 5 mètres, 50, 6 mètres.
Et tu disais que tu ne voulais pas poster où était la yourte. Est-ce que c'est lié à la problématique qu'on connaît autour des habitats légers ou plus là pour respecter quand même l'intimité des gens, bien sûr, j'imagine.
Mais... Je pense que c'est plus pour respecter les gens parce qu'il n'y a pas forcément, comme tu dis, toutes les autorisations tout le temps pour toutes les yourtes qui sont installées. Donc il y en a qui sont quand même posées dans un endroit discrètement et c'est bien de ne pas dire où elles sont.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ah bah j'aimerais que ça soit plus comme ça dans quelques années, mais moi c'est un sujet que j'étudie depuis 15 ans, ce problème de la yourte et de l'habitat léger et des législations. Des discussions, j'en ai eu avec des dizaines de personnes là-dessus, que ce soit des élus, parce que quand je tournais avec la yourte, on allait dans des villages, on était accueillis par la mairie, par les adjoints au maire, et c'est des discussions, des débats qu'on avait vraiment.
Ouais, mais là c'est considéré comme un chapiteau, donc du coup ça va, non?
Ben, oui, la nôtre, ouais. En tournée. Mais justement, on leur posait la question de est-ce qu'il y avait des yourtes d'habitation dans leur commune, comment ils voyaient la chose, quel rapport ils avaient avec ses habitants, qu'est-ce qu'ils leur demandaient en échange, est-ce que c'est les viabilisations enfin... Donc c'est un sujet que j'ai un peu suivi. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se met en place. Par rapport à il y a quelques années, on va quand même dans le bon sens. Par exemple, à Beaumont, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que c'est intéressant d'en parler, mais il y a un projet qui s'est mis en place par la mairie, avec la mairie, de terrains viabilisés, mis en location pour des habitats légers. Et ça n'a jamais quasiment été fait. Et il n'y a pas que à Beaumont que ça se fait, c'est en train de se faire dans pas mal de communes en France, où des élus ont décidé de légiférer dans leur propre commune, en proposant comme une sorte de camping, en fait. Mais c'est-à-dire que chaque parcelle a un point d'eau d'arrivée, d'évacuation, d'électricité, des compteurs, sur lesquels on peut poser une tiny house, un tipi, un dôme géodésique, un zôme, une yourte, enfin tous ces types d'habitats légers. Et là, ça devient intéressant parce que...
Mais peut-être les... presque à long terme, j'allais dire.
Ouais, ouais, c'est des locations, ça peut être... C'est des bails renouvelables, c'est du long terme. Et c'est pour des familles qui ont des projets, essentiellement. C'est-à-dire qu'en priorité, les gens qui vont pouvoir déposer, qui vont avoir des dossiers acceptés, c'est des gens qui sont pas dans juste trouver un endroit pour faire la fête, quand même. Il y a une sélection, on va dire, je pense, de la part des... C'est pas encore fait, mais il y aura sûrement une sélection. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que les gens ils vont pouvoir avoir une boîte aux lettres. Et ça, en habitat léger, c'est quasiment impossible d'avoir une boîte aux lettres et de recevoir son courrier à sa yourte en adresse officielle. Souvent, les gens utilisent une boîte postale ou utilisent une adresse d'emprunt. Enfin, voilà. Donc, une vraie boîte aux lettres pour faire des facturations. Pour une famille, c'est hyper important. On nous demande tout le temps une facture EDF pour justifier d'un domicile. Et voilà, je trouve ce projet super. J'invite tous les gens du Diwa à suivre ce qui se passe là-bas et d'en parler, de le diffuser auprès d'autres élus pour que ça rayonne, parce que le bouche à oreille, c'est pas que dans le Diwa, en fait. Ça va à une vitesse, même au niveau national, ça peut aller très très vite. En quelques années, il pourrait y avoir plein de petites communes qui proposent des espaces comme ça, qui soient une alternative au terrain pour l'accueil des gens du voyage, qu'on connaît tous depuis longtemps, ces grands parkings où les forains...
Souvent
ou...
dégueulasses, d'ailleurs.
Pas tout au le temps froid, très agréable, très... souvent posé au bord des autoroutes, routes. Des parkings ou des zones industrielles. Enfin, c'est vraiment pas non plus... Mmh. Et une autre alternative au camping à la ferme, voilà, où il y a des gens qui, en effet, passent aussi des années... Enfin, une année complète dans des mobil-homes ou voilà, dans des habitats... Mais ils sont dans un camping.
Cette question de l'habitat léger, enfin surtout concernant les yourtes notamment, les roulottes, tout ça, c'était que il fallait que tous les X mois, en gros, la structure ne soit pas fixée.
Tous les 3 mois, il fallait qu'elle soit déplacée. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et on voit effectivement dans le Diwa, les exemples sont nombreux de yourtes ou de roulottes qui sont posées à demeure.
Ouais.
Voilà. Et donc, est-ce que ça viendrait modifier aussi cette chose-là, enfin, c'est-à-dire admettre enfin que en fait une yourte, même qui est un habitat léger, puisse devenir une structure fixe.
Ouais, bah c'était ça le débat justement. Ouais.
Est-ce que par exemple l'exemple de Beaumont va finalement donner ça, même si bon, des familles pourraient repartir au bout de 3 ans,
elles seraient remplacées. Oui, parce que ça reste toujours un habitat léger.
Voilà.
C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, tu peux le démonter, le mettre dans ton camion et aller emménager dans un autre village qui proposerait, pareil, des plateformes d'accueil. Et là, ça peut devenir intéressant s'il y a pas mal de villages qui proposent des plateformes. C'est-à-dire qu'on peut passer 3 saisons dans un village et puis après aller 15 km plus loin dans un autre village et rester dans une région qui nous plaît, enfin, en gardant un petit côté nomade, en fait.
Voilà, je questionnais le nomadisme. Tu as bien transformé ma question. Mais du coup, est-ce que c'est plutôt... pour continuer de permettre ce nomadisme avec ce type d'habitat, ou enfin pour ancrer un petit peu les yourtes, qui sont quand même des structures qui sont capables de prendre tous les temps, toutes les conditions, j'allais dire, climatiques ici, et donc qui pourraient rester des structures fixes.
C'est marrant que tu parles de ça, parce qu'hier j'étais avec Florian, qui lui construit ses fameuses Eli yourtes. Donc avec Florian, pour le coup, je lui couds des bâches pour ses yourtes.
C'est quoi une héli-yourte ?
L'héli-yourte ?
Ouais.
Ah bah si tu connais pas, et pour ceux qui connaissent pas, c'est comme c'est une yourte, simplement la structure de toit est en forme hélicoïdale. Et
j'ai rien compris.
Hélicoïdale, c'est voir, on regardera la définition.
Ouais, voilà.
Comme une ellipse, donc... quoi. Comme okay. une rotation vrillée de la toiture, autoportée. Et c'est super beau, c'est hyper... C'est magnifique ce qu'il fait depuis. Lui, c'est pareil, ça fait 15 ans qu'il en fabrique des héli-yourtes et qu'il en vend à justement une clientèle. Et c'est ça dont on parlait hier, c'est que la clientèle évolue vachement. Il y a 15 ans de ça, les gens à qui il faisait des yourtes, même il y a encore 10 ans de ça, acceptait que les jours de tempête et de grand vent, eh ben, il fallait rajouter des sangles, qu'il fallait s'en occuper, retendre les sangles, vérifier que les bâches ne s'envolent pas. Il y avait toujours des petites fuites d'eau. Il y avait, voilà, des conditions de vie dans une yourte quand même proche de la nature. Maintenant, les clients veulent soit une maison principale, soit une maison secondaire. Et pour eux, ils la considèrent comme une maison. Et s'ils ne sont pas là et qu'il y a du vent, de la neige, de la pluie, ils ne seront pas là pour s'en occuper. En rentrant, ils veulent mettre la clé dans la serrure, rentrer, et que ça soit comme une maison, le confort de la maison. Donc ce qui est proposé de plus en plus, c'est des structures yourtes de plus en plus lourdes, avec des isolants de plus en plus épais, donc de moins en moins nomades, mais transportables quand même. Elles le sont, mais elles sont bien. Plus, on va dire, elles ressemblent plus à une baraque qu'à une yourte, en fait. Et donc ces gens-là, ils veulent le confort de la maison dans la yourte, et le nomadisme, c'est pas quelque chose qui leur parle. Même la yourte en général, c'est pas quelque chose qui leur parle. Ça va plutôt être ça va s'orienter vers un choix financier. On est bien d'accord que d'acheter une yourte comme ça, de 60 mètres carrés, ça va te coûter à peu près 10 fois moins cher que d'acheter une maison.
Et ben, donc, du coup, ça fait bouger les mentalités forcément. C'est-à-dire voilà, que si les gens commencent à se poser des résidences secondaires de yourte sur leur terrain un peu partout.
Ben, ça va faire baisser le prix de l'immobilier.
Non, mais parce que c'était quand même vraiment ça le problème. Je sais qu'en mairie, des administrés pouvaient se plaindre du fait que bah, y a pas de taxes de foncier bâti, il n'y a pas de taxes par exemple sur l'assainissement, etc., qui était toujours une espèce de problématique.
Mais peut-être qu'ils ont trouvé la solution, ouais. Justement. Ces fameux terrains, des plateformes d'accueil pour les habitats légers, et non pas pour les gens du voyage. C'est là où la distinction va se faire. Parce que dans habitat léger, on ne parle pas de nomadisme, on parle d'habitat léger. Les gens du voyage, on parle de voyage, donc de nomadisme. Si on fait des grosses yourtes avec 20 cm d'isolant et des grosses structures, c'est sûr que les démonter tous les ans et les déplacer, ça ne devient pas chose facile. Parce qu'elles sont quand même sur des planchers isolés avec des arrivées d'eau, d'électricité, des évacuations. Mais on pourrait quand même imaginer que tous les 5 ans, elle soit démontée, déplacée, cette grosse structure. Donc, où est le nomadisme là-dedans ? Il y en a encore un peu, mais ouais, on va le perdre un peu quand même.
Voilà, on s'est fait un petit débat habitat léger.
Ouais.
Avec toi, Mathieu.
Ouais, c'est cool.
Et alors, on revient un petit peu à haute couture, ta structure. Là, c'est aussi l'occasion de te faire un petit coup de pub quand même.
Bah ouais, je suis là pour ça.
Bah ouais. Donc comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi maintenant qu'on n'a plus besoin d'avoir du bouche à oreille puisqu'on est au courant,
que
tu existes ?
Bah justement, sur Internet, notre petit site, il n'y a pas grand-chose, mais il y a nos numéros de téléphone en énorme.
Il y a au moins la base.
Il y a notre adresse mail. Donc on s'en est fait chacun une avec Nico, je vais les donner au cas où si vous voulez nous écrire. Moi c'est matt@atelierhautecouture.fr. Et pour Nico, bah, c'est nico@atelierhautecouture.fr. Voilà, on nous contacte comme ça, ou alors on peut venir nous voir à Beaumont, sous la yourte Beluga, justement, directement à l'atelier. Et puis dans quelques mois, si tout va bien...
C'est où ton adresse, pardon, excuse-moi.
À Beaumont, on dit, ouais. Où on est en bas, à l'entrée du village.
On la voit bien, la yourte.
Ouais, depuis l'entrée du village, on la voit, ouais. Et puis voilà, d'ici quelques mois, si tout va bien, on sera sûrement à Miscon.
On va déplacer l'atelier là-bas.
Ouais.
Pourquoi ?
Bah parce que on a trouvé un bel atelier là-bas pour s'installer au chaud avec une grande surface.
Ah, ce sera plus la yourte ?
Eh non, ce sera plus la yourte.
Qu'est-ce qu'elle va devenir ?
Bah, c'est la bonne question. J'étais en train de me demander. Après avoir fait les tournées et l'atelier de couture, on verra. On fera le point.
Tu la vends ?
J'y ai pensé pas mal de fois, je sais pas. Si je la vends, je viendrai à la radio le dire.
Tu y es attaché ? Il y aurait...
Ouais, 15 ans de vie commune, ouais. Ouais, c'est mon bébé, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans quand j'ai monté ce projet-là. Et c'est difficile de se séparer d'une structure comme celle-ci, surtout que je l'avais fait faire à une époque où la yourte, c'était pas quelque chose qui était connu. Et il y en avait très peu, des constructeurs de yourtes, il y en avait très peu. Donc, il y a du chemin qui a été fait dans le monde de la yourte. Elle a diffusé la yourte elle s'est diffusée, mais elle a diffusé le nom yourte. Il y a beaucoup de villages où il y a des gens qui sont venus voir des spectacles sous la yourte, Beluga, et qui m'ont recontacté après en me disant « Bah, on a acheté une yourte, on habite en yourte maintenant. » Et en fait, tout ce chemin qu'on a fait ensemble, c'est quand même pas facile de se dire « Si je la vendais, qu'est-ce qu'elle ferait ?»
Tu nous as pas dit d'ailleurs pourquoi une yourte ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu avais 25 ans pour amener ça alors que tu sens nous dire que tu étais pionnier presque ?
Eh ben, j'ai eu un cadeau par ma maman. Elle m'a offert un bouquin sur les yourtes et les tipis. Et ça devait être dans les premiers bouquins édités de début des années 2000 là, sur les yourtes. Et je suis tombé amoureux direct de la structure. Et à la fin du bouquin, il y avait le nom d'un fabricant de yourtes en France, en Bretagne. Charles, Atelier des Trois Yourtes. Je l'ai appelé et puis voilà, c'est parti direct. Alors après, la difficulté, c'était pour faire mon dossier de demande de subvention, parce que j'ai monté une asso. Et je pouvais faire à l'époque ce qui existait, mais qui n'existe plus, c'était le défi jeune. Ouais, j'ai fait un défi jeune, j'ai fait des demandes d'aide d'investissement à la département, région, DRAC, ville, enfin tout, quoi. Mais mon dossier, il fallait que je l'illustre avec quelques photos. Ma yourte n'était pas faite, elle était en construction. Et à cette époque, j'ai tapé le mot yourte sur Internet, sur le moteur de recherche Google, qui venait sûrement juste de se créer. Et j'ai trouvé 3 photos de yourtes, pour te dire. 3 photos.
Voilà. C'était... Donc, utilisé ça.
Donc, j'ai utilisé les 3 photos qu'il y avait sur Internet. Je vous invite aujourd'hui à taper le mot yourte sur Internet et regarder le nombre de photos qu'il puisse y avoir. C'est fou comment en 15 ans, la place que ça a pris. Ouais. Moi, j'en reviens même pas encore aujourd'hui. Quand les gens, je leur disais la yourte Beluga, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une yourte. Et Beluga, il y a pas mal de gens qui ne savent pas non plus ce que c'est. Donc.
C'est un dauphin.
Ouais, on va dire.
Une sorte.
Une sorte.
Ouais. D'ailleurs, pourquoi tu as mis les deux noms ensemble ?
Bah parce que ce dauphin, ce n'est pas qu'un dauphin. C'est aussi un peu une petite baleine, une baleine blanche.
Blanche, ouais.
Toute blanche. Comme la yourte, elle était blanche. Ouais. C'est un animal qui est quand même assez en voie de disparition. Qui est très très nomade pour le coup, lui les frontières il connaît pas trop. Et puis je trouvais ça intéressant, la petite référence on va dire au ventre de la baleine, Gepetto, Pinocchio, tout ça.
On rentre dans Beluga.
De Beluga dans le ventre, et quand on est dans une yourte et qu'on lève la tête et qu'on regarde toutes ces perches, ben, sur un parapluie ça s'appelle
des baleines. Ouais.
Non, c'est sorti comme ça, Beluga, boum.
Et voilà. Pourquoi haute maintenant ?
Et pourquoi haute ? Parce que haute couture, c'était déjà pris. Et qu'à Marseille, on ne dit pas haute couture, on dit haute couture.
On dit haute, on dit jeune.
On dit jeune. Et une copine qui me dit « Ah, mais c'est comme la haute couture. » J'ai fait « Ouais, c'est ça. C'est bon, on a trouvé le nom. » Bon, avant, on a quand même regardé sur Internet si ce nom existait déjà. Et puis on s'est rendu compte qu'à part un parfum de Givenchy, en fait, jamais personne n'avait utilisé ce nom-là. Donc on s'est jeté dessus.
Ah oui, bah c'est l'occasion de vite appeler Bernard Arnault, parce qu'il dépose toutes ses marques. Comme ça, vous ne pourrez plus l'utiliser. Il faut qu'il la rachète vite,
ouais.
Qu'il la bloque.
Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu veux une parole libre ? Je me demandais d'ailleurs, est-ce que maintenant tu es en capacité de transmettre toi-même, de former ?
Je pense que d'ici quelques temps, ouais, d'ici quelques mois, je vais commencer à avoir assez de bagages.
Et ça te branche ?
Ouais. J'ai toujours bien aimé transmettre. C'est intéressant, ouais. Puis on se remet en question quand on transmet aussi. On se dit, oula, est-ce que je suis en train de transmettre un truc bien ou est-ce que je fais n'importe quoi ? Ouais, et puis après... La différence avec les couturiers qui font de la couture depuis des années, pour certains, et qui font de la très belle couture, il n'y a pas rien à redire, c'est que moi, j'en ai pas fait énormément de la couture, mais par contre, j'ai tourné sous cette yourte et j'ai connu les tempêtes de vent, de sable, la grêle, la pluie, la neige, en montage, en démontage, en spectacle, j'ai tout connu, toutes les conditions extrêmes, vraiment. Et ça m'a appris à dompter la yourte et de savoir en fait ce qui est le plus important sur une yourte, comment bien la traiter, comment la préserver, la faire durer dans le temps. Parce qu'en fait, le problème de ces yourtes, c'est que ça n'a pas une durée de vie, enfin surtout la bâche de couverture, c'est à peu près 10 ans de durée de vie. La structure, elle peut tenir 50 ou 80 ans, il n'y a pas de problème. Mais si on ne s'en occupe pas, en fait, en 10 ans, tout est mort. Hein. Donc c'est... Voilà, moi c'est ça que je vais pouvoir surtout apporter aux clients, c'est mon expérience de tourner pour les conseiller dans les choix en fonction de ce qu'ils vont faire avec cette yourte. Si c'est une yourte d'habitat principal, si c'est une yourte d'habitat secondaire, si c'est une yourte pour la tournée, si c'est une yourte sur le juste monter l'été sur le terrain pendant les vacances. En fait, on faut à chaque fois un projet différent. On ne peut pas utiliser la même technique pour tout le monde. On peut pas mettre 20 cm d'isolant si c'est pour la montée l'été.
Et une parole libre ?
Non, je vais juste dire que c'était surprenant que tu m'invites à cette émission, en fait. Je ne m'attendais pas à ça, ben, parce qu'on s'est rencontrés tous les deux là, en montant cette bâche, justement. Et ça m'a vraiment fait plaisir, de cette invitation. Après, j'y réfléchis, je me suis dit, comment dire, la radio RDIWA, ben, elle aborde tous les sujets. Et puis Baptiste, il sait qu'à travers ce sujet-là, en fait, on va pouvoir aborder d'autres sujets.
C'est ce qu'on a fait.
Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, vive RDIWA, je dirais.
Et on se quitte en musique ?
Ouais, je veux bien une petite musique. On va faire un petit coucou à des copains. Si t'as une petite musique de Mazalda, de Turbo Clap Station.
Merci d'être venu.
Merci à toi.